Chapitre 12. Tétanisés, les marins regardaient le sang déjà en train de se dissiper dans l'eau et les restes macabres qui pendaient au bout de la corde. Ellie leur cria de dresser les voiles et de remonter l'ancre. Bien que le randonneur fût très loin au sud de Tanimura, sous un climat très chaud, le vent semblait glacial comme s'il était devenu le souffle de la mort. Hébétés, les marins exécutèrent au ralenti les ordres du capitaine. Finalement, le navire se remit en mouvement. Suivant les indications de la vigie, le timonier lutta contre sa barre pour conserver une direction qui éviterait tout contact de la coque avec les récifs.
« Prudence !» cria Ellie. « Nous avons déjà perdu 2 hommes. C'est assez pour aujourd'hui. »
Poussé par un bon vent, le randonneur s'éloigna rapidement des récifs. De gros nuages vinrent cacher la lune et les étoiles, mais ça n'avait guère d'importance, puisqu'Ellie ne pouvait plus se fier aux constellations pour naviguer. Son but, en cet instant, était de mettre autant de distance que possible entre le navire et les récifs. Malgré les superstitions des marins, obsédés par une kyrielle de monstres grotesques, Nietzsche supposa qu'un requin ou un prédateur marin de ce type avait attaqué Pell et Buna. Quoi qu'il en soit, elle resta sur ses gardes. À cran, les hommes d'équipage risquaient d'exploser pour un oui ou un non. Les calomnies lancées par les 3 plongeurs se répandant comme un feu de broussailles, les matelots ne s'approchaient plus de la magicienne, comme si elle les terrorisait. Reconnaissante qu'on lui fiche la paix, elle ne fit rien pour rassurer ses hommes. Le randonneur fendit les flots 3 jours de plus. Peu à peu, le temps se gâtait, tel un fruit qui jaunit doucement. Inquiet, le capitaine sortit de la salle des cartes pour observer le ciel et sonder l'océan démonté. Approchant de Nietzsche, il lui parla comme si elle était sa confidente.
« Un coffre plein de perles souhait, madame. Un voyage profitable, malgré le prix du sang, toujours prohibitif. Tout capitaine sait qu'il risque de perdre un gars ou 2. Cela dit, je doute que ces plongeurs retravaillent avec moi. »«
Vous en trouverez d'autres, » fit Nietzsche pragmatique. « Où ont-ils été formés ? Une ville côtière, un archipel ?»«
Sérimundi. » Pour leurs compatriotes, ces pêcheurs de perles sont des idoles.
J'ai vu qu'ils ne se prennent pas pour quantité négligeable.
Les remplacer ne sera pas facile. Dès que nous ferons escale, les survivants bavasseront.
Alors investissez sagement votre nouvelle fortune, capitaine. Les perles que vous avez récupérées sont peut-être les dernières.
Celle de Bannon reposait dans une poche secrète de la robe noire. Au moment de la relève, le matelot qui était perché en haut du mât approcha du capitaine, occupé comme souvent à parler avec ses passagers.
« Les nuages ne me disent rien de bon, capitaine, ça pue la tempête.
Mais il vaut mieux se préparer une nuit éprouvante, ouais. »«
Y a-t-il des récifs devant nous ?» demanda Nathan. « Si on finit par s'échouer, il sera très difficile de trouver Cole Adair. »
« En effet, ça n'arrangerait les affaires de personne, »
concéda Ellie. Il tira sur sa pipe éteinte et posa une main sur sa casquette pour interdire au vent de la lui arracher.
« Non, pas de récif, rien à craindre. »
Le marin salua et s'en fut. Dès qu'il fut assez loin, Nietzsche souffla.
« Vos cartes ne sont plus fiables, m'avez-vous dit. Donc vous ne savez pas exactement où nous sommes ?»«
Exact, »
lâcha Ellie, hautain.
« Mais les récifs ne surgissent pas de nulle part. »
Sous le vent de plus en plus violent, les marins inquiets s'acquittèrent uniquement des tâches essentielles. Un seau à la main, le cuisinier ventripotent monta sur le pont.
« Du lait frais !»
annonça-t-il.
« Ma vache n'aime pas le roulis, le prochain risque d'être caillé. »«
Ça nous fera du fromage !»
dit Ellie, philosophe. Il prit une louche de lait. Nietzsche refusa, mais Nathan s'empressa de goûter et s'en lécha les babines. Le cuisinier proposa du lait au plongeur. Déclinant l'offre, ils foudroyèrent Nietzsche du regard.
« Qui sait si elle ne l'a pas empoisonné ?» grogna Rome.
Pour lui prouver le contraire, la magicienne but toute une louche. Alors que le vent hurlait dans le gréement, Nathan proposa à Bannon une séance d'entraînement. Dans un cliquetis d'acier, les 2 hommes s'affrontèrent au milieu des rouleaux de cordes et des tonneaux disposés sur le pont pour recueillir l'eau de pluie. Bannon avait fait de gros progrès. Encore un peu pâteux, il compensait cette lacune par une énergie inépuisable. Digne du nom qu'elle portait, solide déviait tous les coups du sorcier. Un moment, le spectacle parvint à distraire les matelots pourtant moroses. Quand les deux escrimeurs s'arrêtèrent, épuisés, on ne distinguait presque plus le soleil derrière de gros nuages noirs. De toute façon, ils se coucheraient bientôt.
« J'ai droit à un tour de magie ?»
demanda Bannon en se perchant sur une caisse un peu trop haute pour faire un siège confortable.
« En quel honneur devrais-je faire ça ?»«
Parce que vous êtes un sorcier. Les gens comme vous font des trucs. »«
Des trucs ?» coupa Nathan. « Non, j'utilise la magie. Les trucs, c'est pour les charlatans. Va donc demander à Nietzsche. Elle consentira peut-être à te divertir. »
Bannon jeta un coup d'œil à la magicienne et déglutit péniblement.
« Je l'ai vue à l'œuvre. Je sais ce qu'elle peut faire. »
« Non, » rectifia Nietzsche, « tu connais une toute petite partie de mes pouvoirs. » Malmené par le vent, le randonneur semblait vouloir jouer à saute-mouton sur les vagues. Pourtant doté d'estomac à toute épreuve, certains marins devaient se pencher par-dessus le bastingage pour vomir. Au rythme du battement affolé des voiles, les mâts grinçaient sinistrement. Sa veste d'uniforme prudemment fermée, les mains sur les hanches, Eli cria des ordres.
« Ramenez les voiles, le vent risque de les déchirer !»
En haut du mât, la vigie venait de s'attacher pour ne pas risquer d'être projetée dans le vide. Avec un soupir théâtral, Nathan accéda à la demande de son jeune compagnon qui n'avait pourtant pas insisté.
« D'accord, ouvre bien les yeux, fiston !»
Le sorcier s'agenouilla, lissa le jabot de sa trop belle chemise, puis se frotta les mains comme s'il voulait les réchauffer.
« Une simple flamme de paume, » expliqua-t-il. « Ça sert à allumer un feu ou à s'éclairer. »«
Moi, j'utilise un briquet à Amadou, » dit Bannon.
« Si tu as ta propre magie, pourquoi t'intéresser à la mienne ?»«
Non, je veux voir. Montrez-moi votre flamme de paume. »
Nathan mit les mains en coupe, fronça les sourcils et se concentra jusqu'à ce qu'une étincelle apparaisse puis devienne une petite flamme. Mais une bourrasque la souffla comme s'il s'agissait d'une vulgaire bougie. Nathan en resta bouche bée. Dans un passé récent, Nietzsche l'avait vu générer sans effort des boules d'énergie, voire son terrifiant feu de sorcier. Et là, vexé, le vieil homme se concentra de nouveau et plissa le front quand une nouvelle étincelle plutôt minable fut encore soufflée par le vent.
« C'est censé être si difficile ?»
demanda Bannon.
« Je suis patraque, fiston, » fit Nathan. « La magie est une affaire de concentration, et je pense à autre chose. De plus, il y a trop de vent pour une démonstration de ce genre. »
Bannon parut déçu.
« Les sorciers ont besoin de conditions idéales ? Voilà qui m'étonne beaucoup. Ne m'avez-vous pas dit d'être prêt à utiliser mon épée, quelle que soit mon humeur ?»«
Que sais-tu des sorciers, gamin ? Par ce temps, ton briquet ne réussirait pas à allumer un feu. »
Bannon dut concéder le point. Radouci, Nathan ajouta
« Ça n'a rien à voir avec toi, fiston.
Mon Han semble troublé. Je ne sais pas encore que faire contre ça. Votre Han ?»«
C'est le nom de la force primale qui nous anime tous, et plus particulièrement les pratiquants de la magie. Le Han est différent pour chaque personne. » Le mien impliquait en plus un don pour les prophéties, mais c'est terminé à présent. Et il faut que je mette un peu d'ordre là-dedans, je crois.
« Vous n'auriez pas plutôt le mal de mer ?»
avança Bannon.
« Tu te moques de moi, mais c'est bien possible. »
Perturbé par ce qu'elle venait de voir, Nietzsche se demanda quel problème pouvait avoir le sorcier. Suite au changement stellaire, il avait perdu son don de prédiction, mais... le reste de sa magie n'aurait pas dû en souffrir, et une flamme de paume, c'était vraiment un sortilège de base.
« Je me retire dans ma cabine !»
annonça Nathan. Il avança sur le pont, tentant de conserver sa dignité et son équilibre malgré le roulis.
« Si j'ai faim, je viendrai dîner quand ce sera prêt. »
Nietzsche décida d'imiter son compagnon. Inutile de déconcentrer les marins, tous très superstitieux, en restant sur le pont par gros temps. Malgré la glaciale beauté de la magicienne, Sol avait compris au premier coup d'œil qu'elle était dangereuse. Ses compagnons, eux, n'avaient vu qu'une jolie blonde aux courbes avantageuses et au visage plus attirant que celui de Mère la Mer. Coupée de tout sur un navire, les marins abaissaient en général leurs critères esthétiques. Là, pas question de nier que cette maîtresse de la mort était plus belle que la plus chère pensionnaire du plus chic bordel de Sirimundi. Et il n'y avait qu'à se baisser pour l'accueillir. Quand elle traînait sur le pont, le vent soulevait sa robe et dévoilait ses jambes ou plaquait le tissu contre ses seins, un effet tout aussi stimulant. Des seins que Sol devinait à la fois fermes et doux et qui attendaient d'être pétris comme de la pâte. Et les tétons, étaient-ils rose pâle ou plus sombres? S'il les pinçait, gémirait-elle d'extase? Les autres plongeurs la désiraient aussi, mais il était leur chef et passerait le premier. Après la mort de deux camarades, les survivants ne méritaient-ils pas une compensation? La magicienne leur devait bien quelques heures de plaisir. En réalité, elle leur devait deux vies. Pelle et Buna tués par des monstres qu'elle avait invoqués. Pendant des jours, elle avait défié les plongeurs, et voilà que deux d'entre eux étaient morts. Chez eux, à Sirimundi, les pêcheurs de perles souhaits étaient traités comme des héros. Quand il était gosse, ses parents avaient appris à Sol l'art de la plongée en profondeur, puis il l'avait cédé à un mentor en échange d'un pourcentage sur sa pêche des 5 prochaines années. Son maître l'avait entraîné. Des poids aux chevilles, Sol avait dû plonger au fond d'un lagon et attendre qu'on daigne le remonter. Impitoyable, son mentor le poussait chaque fois un peu plus près de la noyade. Plus d'un tiers des élèves finissaient ainsi, les poumons pleins d'eau, les yeux sortant de leurs orbites et la bouche grande ouverte. Sol s'était noyé une fois, mais il avait pu cracher l'eau et revenir à la vie. Ce jour-là, il avait décidé de devenir pêcheur de perles. En position d'avoir toutes les femmes de Sirimundi, il ne se privait pas de piocher dans ce cheptel. Ses maîtresses espéraient toutes qu'il leur offre des perles, et il ne les décevait jamais. En trouver était si facile pour lui. Dans les récifs du sud, la réserve de coquillages, mains croisées, semblait inépuisable. De plus, le capitaine Corwin ne payait pas qu'en perles, un arrangement lucratif qui conférait du prestige et du pouvoir à Sol et à ses amis quand ils revenaient sur la terre ferme. Pelle et Buna ne rentreraient plus jamais chez eux, à cause de Nietzsche. La magicienne hautaine se croyait intouchable et pensait ne jamais avoir de compte à rendre après ce double assassinat. Mère, la mère demandait pourtant justice et Sol savait comment la satisfaire. Quand il eut confié son plan à Elgin et à Rome, tous trois allèrent sur le pont, à l'endroit où les marins avaient abandonné des coquilles de mains croisées. La plupart avaient été jetées à l'eau, mais il en restait quelques-unes après le désastre et la fuite précipitée du navire. Les plongeurs utilisaient des couteaux spéciaux pour séparer la perle de la chair immangeable des mains croisées. Mais Sol en savait très long sur ces coquillages. Dans le corps de la créature, une minuscule poche contenait un poison assez puissant pour s'attaquer à une magicienne. Sachant que le cuisinier préparerait bientôt le repas, les trois hommes se hâtèrent d'extraire assez de toxines des coquillages restants. De premier quart de nuit, Bannon se sentait très nerveux. Sur Shiria, il avait vu passer plusieurs tempêtes qui dévastaient l'île et arrachaient le toit des maisons. Pour qu'il ne soit pas emporté, il fallait arrimer solidement les bateaux de pêche ou mieux encore les tirer au sec. Jamais pris dans une tempête en mer, le jeune homme sentait pourtant le danger planer dans l'air. Le vent lui coupait par moments le souffle et il n'aimait pas du tout l'aspect des nuages. Tous les marins de repos étaient dans leur quartier en train de jouer au dé à la lumière de lanternes. Certains devaient se balancer dans leur hamac, cherchant à trouver le sommeil malgré le roulis. D'autres enfin vomissaient dans des seaux qu'ils vidaient ensuite par les hublots. Bannon sursauta quand les plongeurs approchèrent de lui, torse nu malgré le vent et les embruns. Leur chef Sol tenait une casserole au contenu protégé par un couvercle en bois.
« Le cuisinier finit le service !»
Bien qu'il ait l'estomac retourné à cause du tangage, Bannon en eut l'eau à la bouche. Depuis le matin, il n'avait rien avalé.
« C'est pour moi ?»
Rome le foudroya du regard.
« Non, tu dîneras après ton quart. Le cuisinier veut être certain que la magicienne mangera. »«
C'est la première fois qu'il fait ça ?»«
C'est aussi la première tempête, »
fit remarquer Elgin.
« Il vaut mieux que les passagers restent dans leur cabine. S'ils en sortent par ce temps, ils risquent de finir à l'eau. » Le capitaine espère qu'ils lui verseront un bonus une fois arrivé à destination.
Bannon acquiesça. Tout ça se tenait.
Nous avons apporté son repas au sorcier, mais la magicienne...
Sol baissa les yeux.
On l'a un peu rudoyée, il faut bien le dire. Prends cette casserole et va la lui donner, ce sera beaucoup mieux.
Si nous le faisons, dit Rome, ça lui paraîtra bizarre.
Gênant même, ajouta Elgin.
Bannon ne fut pas convaincu. Jusque-là, les plongeurs n'avaient jamais accompli une mission pour le cuisinier. Mais, comme la plupart des marins étaient à l'intérieur, de plus, pour une fois que ces types s'impliquaient dans quelque chose, il aurait été malvenu de les envoyer paître. La mort de leur camarade leur avait peut-être ouvert les yeux. Enfin, apporter son dîner à Nietzsche serait un plaisir.
« D'accord, dit-il, je m'en charge. »